Vous écoutez, on lit pour vous.
Nathan n'est pas mort pour rien. Un texte de Caroline Touzin, paru le 26 avril 2025 dans la presse. Éteindre le four. 8 mois après la mort de Nathan, Tania Paradis ne se résout pas à retirer la note écrite par son ado collée sur la cuisinière. Le mot lui rappelle l'intensité de Nathan, sa générosité aussi. L'adolescent de 13 ans s'était découvert une passion pour la cuisine lors des dernières vacances d'été. Avant de quitter la maison, sa mère, connaissant son côté intense, parfois un brin étourdi, lui rappelait d'éteindre le four. Nathan avait décidé de l'écrire sur une note autocollante pour s'assurer de ne pas oublier. Il aimait expérimenter toutes sortes de recettes. Un jour, il avait même fait un pâté chinois de A à Z, seul pour le souper, se souvient la maman avec fierté. Son beau-père Gabriel l'avait félicité en taquinant Tania. « Nathan, ton pâté chinois est meilleur que celui de ta mère. » Tous les trois avaient ri. C'était peu de temps avant la rentrée scolaire, la journée où leur vie a basculé. Avec Nathan, c'était tout ou rien. « Jamais de demi-mesure », raconte la maman en entrevue par visioconférence de chez elle à Amos en Abitibi. À la rentrée scolaire, le 27 août 2024, l'adolescent a été happé par une voiture alors qu'il descendait de l'autobus scolaire devant sa maison. Le drame vient de survenir lorsque la mère, alors enceinte de 5 mois et demi, rentre du travail ce jour-là. Une scène d'horreur l'attend. Nathan gît dans le fossé devant la résidence familiale. Comme le conducteur de la voiture pourrait être accusé devant la cour criminelle, la famille préfère ne pas aborder cet aspect de l'histoire, afin de ne pas nuire au processus d'enquête toujours en cours. C'est la suite inspirante qui mérite d'être racontée. Celle qui donne un sens à une tragédie qui n'en a pas, qui met un baume sur la plaie béante de la famille de Nathan. Un baume sur la plaie. La mère et le père, ils sont séparés, ont pris la décision de donner les organes de leur fils. Nathan n'est pas mort pour rien, lâche Tania les yeux embués. La maman revient pour la première fois sur le drame pour sensibiliser d'autres familles aux dons d'organes. Très peu de mineurs, 7, ont donné leurs organes en 2024 selon Transplant Québec. Tania a été guidée dans sa décision par son bébé à naître et par la vue de tous ses enfants malades croisés à l'hôpital. « Si mon enfant avait besoin d'un organe, dit-elle, j'aimerais qu'il en reçoive un avant qu'il ne soit trop tard. » La famille de Nathan souhaite faire savoir à quel point le don d'organes et surtout la façon dont cela s'est déroulé au CHU Sainte-Justine a facilité les premières étapes de son deuil. Au départ, il y a eu la chance qu'un policier qui n'était pas en fonction ce jour-là passe par hasard devant la scène d'accident avant que les secours n'arrivent. Ce policier a pratiqué les premières manœuvres de réanimation sur l'adolescent. Grâce à ces manœuvres de réanimation cardio-respiratoire précoce, les organes ont pu recevoir l'apport en oxygène nécessaire à leur survie. L'ado est ensuite stabilisé à l'hôpital d'Amos avant d'être rapidement transféré en avion au CHU Sainte-Justine à Montréal. À ce moment-là, les parents ont toujours espoir que leur fils sera sauvé. J'ai préparé sa valise pour l'hôpital, j'ai mis des Legos pour la convalescence, raconte la maman, avant de laisser passer un silence. Nathan adorait les Legos. Or, des examens réalisés à l'hôpital pédiatrique montréalais confirmeront la mort cérébrale. Le père, Dominique Macamo-Paquette, qui a fait le trajet en avion aux côtés de son fils, encaisse le choc. La mère et son conjoint le rejoignent en voiture. « Le trajet le plus difficile de ma vie », se souvient-elle. L'équipe soignante aborde alors avec délicatesse la possibilité du don d'organes en leur offrant de rencontrer une infirmière de Transplant Québec. L'adolescent et ses parents en avaient déjà discuté. Cela allait de soi pour Nathan. Il avait cet altruisme-là, raconte la maman avec émotion. Une famille marquante. « Je ne vais pas oublier cette famille-là », raconte l'infirmière aux soins intensifs, Marie-Ève Paquin-Champoux. Toute la grande famille de l'adolescent, parents, beaux-parents et autres proches à son chevet, était tellement sereine avec l'idée du don, ajoute sa collègue Lisiane Brisson. « Et si gentille », insiste-t-elle. Lorsqu'un décès survient, l'équipe des soins intensifs essaie de répondre à toutes les demandes de parents, poursuit l'infirmière Marie-Ève Paquin-Champoux. Dans ce cas-ci, la famille de Nathan souhaitait une aide d'honneur au moment où ce dernier allait être envoyé au bloc opératoire pour le prélèvement d'organes. L'unité en organise à l'occasion pour un patient qui obtient son congé après une longue hospitalisation, mais c'était une première pour un donneur d'organes. Obstacle en vue. Le prélèvement aurait lieu durant la fin de semaine, alors que l'hôpital fonctionne avec un personnel réduit. L'infirmière, Marie-Ève Paquin-Champoux, se souvient du stress qui l'a envahi. Elle voulait que la haie soit à la hauteur du geste de l'adolescent. On ne pouvait pas être juste 6 ou 7. La coordonnatrice des activités de l'hôpital lancera un message à toutes les unités. La réponse va souffler l'infirmière Marie-Ève Paquin-Champoux. Au moins une 40aine d'employés, préposés, infirmières, médecins, etc., ont quitté brièvement leur poste aux étages pour rejoindre la famille. C'était comme si tout l'hôpital s'était mis à l'arrêt pour Nathan, décrit l'infirmière encore émue. Les parents, en larmes, ont accompagné leur fils jusqu'au bloc opératoire. « Je l'ai mis au monde. Je voulais être là jusqu'à son dernier souffle », explique Tania, saisissant toutefois qu'elle ne pouvait pas pénétrer dans la salle d'opération. Une fois dans la salle, avant que les chirurgiens commencent leur travail, l'infirmière de Transplant Québec, Lisanne Desrosiers, a lu des lettres écrites par les proches de Nathan. Pour que les proches aient l'impression d'accompagner Nathan jusqu'au bout, l'infirmière a proposé de mettre son téléphone en mode haut-parleur. Submergée d'émotion, l'infirmière Lisanne Desrosiers a dû s'interrompre durant la lecture de la dernière lettre, celle de la maman. Des empreintes des mains de Nathan sur une toile et une mèche de ses cheveux ont aussi été prises et remises à la famille. Celle-ci a pu faire baptiser Nathan à l'hôpital. La maman a eu l'autorisation de dormir une dernière nuit avec son fils. J'ai pris sa main et je l'ai mise sur mon ventre. Autant de rituels qui resteront gravés dans la mémoire des proches. « Je suis privilégié d'accompagner les familles dans le pire moment de leur vie », explique l'infirmière Lisanne Desrosiers de Transplant Québec. « C'est la moindre des choses de tout faire pour apaiser leur douleur. » La famille s'est sentie comme à la maison, traitée aux petits oignons, confirme la mère. Sans ces rituels, son deuil aurait été différent, beaucoup plus difficile, croit-elle. Nathan a donné ses reins, son foie et sa cornée. Sa maman a accouché d'un bébé en santé. Un jour, Tania décrira à son enfant la générosité et l'intensité de ce grand frère qu'il n'a pas eu la chance de connaître, et Gabriel lui racontera peut-être l'anecdote du pâté chinois. Un souvenir heureux que la mère et le beau-père de Nathan se remémorent chaque fois qu'il voit la note toujours collée sur la cuisinière. C'était « Nathan n'est pas mort pour rien », un texte de Caroline Touzin, paru le 26 avril 2025 dans La Presse.
C'est mon histoire. tous les jours où j'ai aimé être la femme de mon mari. » Un texte de Vanessa Bell, paru le 3 avril 2025 dans Elle Québec. Après une année de séparation, Vanessa Bell revisite la vie et la mort de son mariage. Une histoire d'amour dévorante et immense qui s'étale sur 18 ans. 20 septembre, anniversaire de mariage. Ça aurait été le 4e. Je ne suis pas exceptionnelle. Je gonfle la statistique québécoise voulant que la moitié des divorces se produisent dans les 5 premières années. Depuis cet été, les papiers sont au greffe. Un suspense long comme une zone de turbulence. Bientôt, le divorce sera prononcé. Après une année de perte de repères, de crise de sens, de crise de larmes, de crise de nerfs. Après une année où, à l'image des grands romans russes, une fracture immense et inattendue se produit, banalement, entre deux chapitres. La protagoniste a soudainement 20 ans de plus et une toute nouvelle vie, loin, si loin de la première, suit son cours sans explication aucune. 20 septembre. Je prends la mesure de ce qui a composé les derniers mois. D'abord, les mois de tête basse, le déménagement, les épiceries tristes, les journées à ne plus savoir respirer, les nuits qui résistent au sommeil, les deuils multiples et incessants, la famille, le couple, les amis, la vie fantasmée. On parle de peine d'amour, mais rarement du fracas, de la grande déchirure, de la paralysie du divorce. J'ai passé l'automne à tenir bon, l'hiver à vomir et à trembler, le printemps accompagné d'un amant et l'été avec plusieurs autres. Mais toujours ce vide. Et moi, béante. Comme en dehors de moi. J'ai traversé cette année, non pas sans m'en apercevoir, mais à la manière du « je » est un autre. Et cet autre, immanquablement, semblait s'inscrire en mon centre, comme lui, mon mari. J'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari au début de ma vingtaine. Nous travaillions tous les deux dans un restaurant d'un quartier touristique. J'ai vécu l'impensable, le cinématographique, un coup de foudre. Entre le passe-plat de la cuisine et une surface de travail, dans un couloir aussi étroit que mes hanches, nous nous sommes tenus quelques secondes. Une vie entière, pour être exacte, médusée par la rencontre de nos corps, par la volonté dans nos yeux. Entre lui et moi, un immense chaudron. Tout autour, les collègues. Et derrière, s'élevant de la salle à manger, les murmures de l'apéro. Showtime! Si j'ai mis des semaines, des mois à le courtiser, j'ai surtout mis des années à comprendre que ce que je faisais instinctivement disait que tout de moi voulait être accueilli par lui. Chaque lecture, chaque musique, chaque concert, chaque randonnée, chaque découverte et joie lui était, en moi, réservé. Évidemment, la démesure n'exclut pas la douleur. Il y eut des blessures, des cassures, des abysses. Il y a eu entre nous un nombre effroyable de partenaires, de petites et de grandes trahisons. Il y a eu une fascination commune, une passion dévorante, un élan trop grand pour être supporté. 20 septembre. Un an plus tard, 18 ans plus tard, je tente de mesurer ce qui m'est arrivé. Quelque chose comme une révolution épuisée, un ressac qui meurt en pleine mer. Pour passer la journée, je dresse la liste de ce qui manque. Le premier café du matin. La manière dont ses bras s'agrippent autour de moi, ça joue contre ma tête. Ses excuses quand il veut partager quelque chose avec moi alors que je travaille. Lire à ses côtés. L'entendre jouer du banjo le soir pour endormir nos enfants. Dire « nos enfants ». Son rire, l'odeur de son sexe, la beauté de ses repas, les jeux de société, le vélo, la musique, être dehors ensemble, le thé l'après-midi. La liste est interminable. C'est la somme des gestes qui composent le quotidien, qui disent l'amour, qui font que deux personnes choisissent chaque jour d'approfondir ce lien invisible et pourtant tangible qu'on nomme tendresse, complicité, intimité. Oui, tous les jours, j'ai aimé être la femme de mon mari. 20 septembre. Je déplie une vieille lettre que je glisse d'année en année dans un nouvel agenda. Elle cache en son centre un polaroid de nous deux, enlacés dans la cuisine, imbriqués l'un dans l'autre. Je relis son écriture caractéristique, devine les mots là où le plomb s'efface, et je souris de le retrouver. De nous retrouver dans la certitude de notre éblouissement commun. Il termine la lettre par « Fais ce que tu veux. Tu as tout pour faire une bombe nucléaire. » Je la lis et en moi se déploie l'impensable, l'apaisement. Plus besoin de revisiter, de chercher, de tenter de comprendre la dernière année, ni notre mariage. Nous avons été l'immensité, mais l'immensité a des murs, même invisibles. Je dois croire ce qui me reste de nous, et je le fais. J'avance, menton haut, cœur nu dans la tempête. Je fais ce que je veux, j'ai tout pour faire une bombe nucléaire. C'était « C'est mon histoire, tous les jours où j'ai aimé être la femme de mon mari ». Un texte de Vanessa Bell, paru le 3 avril 2025 dans Elle Québec.
Santé Québec ou rien. Un texte de Marie-Michèle Sioui et Pascal Mayotte, paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. Le Devoir publie aujourd'hui l'extrait du livre à paraître « L'indomptable mammouth » aux éditions Somme toute Le Devoir. L'ouvrage, signé par Pascal Mayotte et Marie-Michèle Sioui, remonte le fil de l'histoire du réseau de la santé, de la naissance de l'assurance maladie à celle de l'Agence Santé Québec. L'ancien conseiller politique et la journaliste ont interviewé près d'une trentaine de personnalités de tous les horizons politiques. À travers les réformes et les crises, il pose des regards croisés sur des périodes marquantes de l'histoire de la santé au Québec, notamment celle de la pandémie de COVID-19 qu'ils ont vécue de part et d'autre du mur de la politique. François Legault s'apprête à plonger le Québec en campagne électorale. Avec le slogan « Continuons », la CAQ réclame, en cette fin de l'été 2022, un deuxième mandat fort, mais un poids lourd du gouvernement sortant hésite, lui, à continuer. Christian Dubé est catégorique. Il ne sera pas sur les rangs si le gouvernement ne met pas sur pied une entité indépendante chargée de gérer les opérations dans le réseau de la santé. « Oui, oui », lui assurent mollement des membres de l'entourage du premier ministre. Dubé les juge trop évasifs. Pour lui, pas question de partir en campagne électorale sans avoir annoncé l'intention du gouvernement de créer Santé Québec. En cas de victoire, ce vers quoi la CAQ vogue assez facilement au regard des sondages, il ne veut pas avoir l'air de sortir un lapin de son chapeau en lançant les travaux pour cette nouvelle société d'État. Et puis, une annonce avant la campagne a l'avantage de sceller l'engagement que lui a donné le premier ministre pour lancer un tel chantier. Le 17 août 2022, le ministre Dubé se présente devant les médias pour annoncer son intention de créer Santé Québec. Une nouvelle structure, écrivent les journalistes. Le point de presse n'a pas levé pantoute, rigole sa directrice adjointe de cabinet, Marjorie Côté-Boileau. L'attention médiatique est effectivement ailleurs. Le déclenchement de la campagne électorale est imminent. Les autocars des partis politiques démarrent 11 jours plus tard, le 28 août. La hausse du coût de la vie s'impose comme un thème dominant. Les questions sur l'immigration et le troisième lien entre Québec et Lévis s'invitent aussi dans les points de presse, au grand bonheur et au grand déplaisir, respectivement, du premier ministre. La CAQ peut compter sur Christian Dubé comme candidat. Le ministre a obtenu l'engagement qu'il souhaitait. Il est convaincu d'avoir, sous le bras, le plan de match pour dompter la bête qu'est le réseau de la santé. Chut! Le hochet! Ce que les Québécois ne savent pas, en ce mois d'août 2022, c'est que Santé Québec est un projet déjà bien défini dans l'esprit de Dubé. Il travaille depuis des mois à convaincre son chef de parti. Stratégique, il cherche d'abord à obtenir l'appui du bras droit du premier ministre, Martin Koskinen. Il l'invite à sa résidence de Sutton. La maison, installée sur un immense terrain boisé, est un havre pour Dubé. Il présente des chiffres, des tableaux et des études à Koskinen. Pour lui, il n'y a aucun moyen de gérer ce réseau sans se donner les outils nécessaires pour le faire, et Santé Québec est de ceux-là. Sans son projet d'agence, c'était très clair qu'il quittait la vie politique, confirme Dubé. Et quand Christian Dubé veut quelque chose, ce n'est pas une option. Ça faisait partie des conditions, renchérit Côté-Boileau. Le premier ministre, lui, n'a aucune envie de jouer aux apprentis sorciers en brassant des organigrammes. Mais il finit par se laisser convaincre. Si on n'avait pas vécu la pandémie, probablement qu'on aurait été plus fermé, reconnaît Koskinen. Mais on avait vu les limites du réseau, à quel point sur l'île de Montréal, les organisations ne se parlaient pas, l'information ne circulait pas. À quel point, dans une organisation qui dépense des milliards, des systèmes d'information ne pouvaient pas nous dire ce qui se passait. Voyant son ministre aussi convaincu, craignant de le perdre pour un deuxième mandat, Legault embarque dans l'aventure Santé Québec. Un acte de foi envers Christian Dubé, résume Koskinen. Avec son entourage, Dubé baptise ce projet le Hochet. L'expression a été empruntée à l'ex-premier ministre Jacques Parizeau, pour qui la souveraineté devait être plus qu'un simple hochet pour tenir les indépendantistes tranquilles. Pour monsieur, l'accord du lac Meech ressemblait aussi à ce jouet pour bébé, censé calmer les coliques causées par le rapatriement de la Constitution. En mars 2022, les équipes de Dubé glissent des indices au sujet de Santé Québec dans le plan santé. Un plan de décentralisation du système de santé et des services sociaux visera à ramener les opérations du réseau vers les régions et à recadrer la mission du ministère sur les orientations stratégiques, y lit-on. L'entourage du ministre suggère de ne pas aller plus loin. Autrement, la nouvelle structure deviendra un hochet pour les journalistes et le reste du plan n'obtiendra que peu d'attention. Paris réussit. C'est le projet de guichet d'accès à la première ligne qui fait couler le plus d'encre. Le ministre veut pouvoir s'appuyer sur un rapport pour se lancer dans la création de Santé Québec. il mandate la sous-ministre Dominique Savoie afin qu'elle dégage des pistes de réflexion en matière de gouvernance, d'organisation du travail et de redéfinition des rôles entre le ministère et son réseau. La séquence est télégraphiée. En juin 2022, Savoie écrit que le temps est venu de recentrer la mission du ministère de la Santé et des Services sociaux sur la définition des objectifs et des orientations stratégiques. Disant s'inspirer des actions porteuses déployées pendant la pandémie, elle suggère l'instauration d'un niveau de coordination des opérations. Le ministre a en main le rapport qu'il voulait. Dubé s'appuie aussi sur les travaux de la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay. Quelques mois plus tôt, en janvier 2022, la commissaire a déposé son rapport sur la performance du système de santé et des services sociaux pendant la première vague de la pandémie. Dans une brique de 300 pages, elle fait valoir l'urgence de mener une transformation radicale de la gouvernance du système de santé québécois. Pendant la première vague, 5 718 décès ont eu lieu dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires. Le Québec, et au premier chef le ministère de la Santé, qu'elle qualifie de paternaliste à l'égard des aînés, doit se relever de cet échec collectif. Les mots de la commissaire sont tranchants et laissent transparaître son découragement. La plupart de ces enjeux étaient déjà connus. Des recommandations ont déjà été faites. Les décisions n'ont pas suivi, assène-t-elle. Elle somme le ministère de se concentrer sur son rôle de gouvernance et de laisser les opérations aux établissements. En entrevue pour ce livre, Castonguay dit avoir choisi l'expression « transformation radicale » dans l'espoir de déclencher, enfin, des changements profonds dans la gouvernance du réseau de la santé. Elle ne s'attendait cependant pas, mais pas du tout, à inspirer la mise sur pied d'une société d'État comme Santé Québec. Au printemps 2022, Christian Dubé l'invite à une rencontre pour lui présenter son projet. Il est enthousiaste. Castonguay, elle, est franche et directe. Elle rentre au bureau les deux jambes coupées. « Ça va, Joanne? Tu es toute blême », lui fait remarquer un de ses collègues. « Je rentre d'une rencontre avec le ministre Dubé. On vient de créer un monstre. » C'était « Santé Québec ou rien », un texte de Marie-Michel Sioui et Pascal Mayotte, paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.